au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel avec la Revue des Deux Mondes et avec son fidèle rédacteur en chef, Michel Crépu. Bonjour Michel.
Bonjour Laetitia.
Aujourd'hui, vous venez nous présenter le numéro de l'été, été des JO de Pékin, et donc la Revue des Deux Mondes s'intéresse à la Chine. Mais sous un angle particulier, expliquez-nous ça.
Oui, alors vous savez, la prochaine tenue des Jeux Olympiques à Pékin va susciter foule de commentaires. Et la question est donc de savoir comment la Revue des Deux Mondes peut faire entendre sa note dans ce concert qui s'annonce, tonitruant, surtout lorsque l'on pense aux trois derniers mois qui ont été quand même très très agités dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque on a commencé par ces histoires de flammes, tous les remous que ça a suscité.
Voilà, les manifestations, l'agitation.
La route de la flamme. Et puis ensuite, on est passé au tremblement de terre dans le Sichuan, qui évidemment était d'une toute autre importance et qui a eu d'ailleurs comme conséquence de modifier comme quoi vraiment la puissance médiatique est très liée à l'émotion, a eu pour conséquence de modifier le point de vue qu'on avait sur la Chine. La Chine, avant le tremblement de terre, était dans le rôle de la méchante sorcière qui n'est pas gentille avec les Tibétains, et d'ailleurs c'était vrai. Et puis quand le tremblement de terre est arrivé, tout à coup on a réalisé que la Chine, c'était pas simplement le pouvoir chinois dans ses relations ou ses non-relations avec le Tibet, mais c'était aussi des gens. Des Chinois, des Chinoises, des enfants, des femmes, des hommes, et qui étaient plongés dans une détresse épouvantable avec ce tremblement de terre. Et donc, si j'ose dire, ces événements ont un grand mérite, c'est de nous pousser on aurait évidemment préféré que ce tremblement de terre n'ait pas lieu, mais bon, la vie est comme ça. Et donc, ça a aussi cet avantage de nous pousser à aller plus loin que la perception qu'on a de surface, on se contente de peu. Et donc, nous nous sommes dit que ça valait la peine de se redonner les moyens d'une connaissance de la Chine à la fois, j'allais dire, en direct, c'est-à-dire, par exemple, en demandant dans ce numéro à un grand reporter, Dorian Malovic, qui va en Chine depuis 25 ans, qui est grand reporter au journal La Croix, et qui connaît particulièrement bien la province du Sichuan, province qui est grande comme la France, donc... C'était bien d'avoir, grâce à lui, une connaissance plus réelle, plus concrète de cet immense pays.
Riche d'ailleurs.
Riche, avec une tradition un peu critique, rebelle, voilà. Etc. Et donc, tout simplement, de se faire une idée plus nourrie, plus précise, d'une région du monde dont on n'avait pas la moindre conception, en réalité. Et puis d'avoir, en même temps... Alors là, en prenant les choses sur une toute autre longueur d'onde, en se faisant un peu broder le lien, en repartant dans les millénaires enfuis, et donc de demander à deux, j'allais dire spécialistes, mais j'aime tellement pas ce mot, mais deux grands connaisseurs, qui sont par ailleurs professeurs, Romain Graziani, qui enseigne la Chine ancienne à l'École normale de la rue d'Ulm, et Rémi Mathieu, qui est aussi universitaire et qui a fait beaucoup de traductions de textes anciens, du Tao, et donc de leur demander à l'un et à l'autre de nous introduire à ces éléments anciens qui constituent un peu les soubassements, les fondations de la culture
cette Chine
chinoise.
Ancienne, ouais. Et c'est vrai que l'article de Rémi Mathieu intitulé « Des livres dans les tombes », où il raconte les fouilles archéologiques, la découverte de manuscrits anciens, est passionnant. D'ailleurs, des fouilles qui sont encore très récentes, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et donc cet article montre bien aussi qu'on peut tout à fait entrer un peu dans le détail du travail archéologique, sans se perdre dans des arguties de savants. Et puis, il y a cet article formidable de Romain Graziani, avec beaucoup de malice, qui fait une sorte de parallèle entre la perception du corps dans la tradition taoïste et la perception, dirons-nous, européenne.
En rapport aux JO, justement.
En rapport aux Jeux Olympiques, le corps athlétique olympique vu par l'Occident et le corps taoïste. Et on voit que du côté chinois, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la Chine je pense que la Chine va ramasser beaucoup de médailles, mais en tout cas, il y a dans la tradition taoïste une place qui est faite à l'usure, voire à la décrépitude, un corps qui n'est pas forcément glorieux, qui n'est pas forcément toujours dans l'esprit de la compétition, mais qui est aussi dans cette acceptation assez sereine de la dégradation, pourrait-on dire. Et Romain Graziani nous montre ça avec beaucoup d'humour, humour et malice d'ailleurs, qui viennent en droite ligne aussi des textes Tao du Chuang Tzu, qui sont... On a maintenant, d'ailleurs on peut le dire aussi pour les auditeurs, une magnifique traduction du Chuang Tzu par Jean Lévy, qui est aussi un autre grand, très grand sinologue, paru chez un éditeur dont le nom est amusant, parce que ça s'appelle l'Encyclopédie des Nuisances. Et donc, depuis 3-4 ans, je crois, je ne sais plus très bien, mais enfin, il y a cette traduction complète du Chuang Tzu qui est vraiment une mine de gai savoir à la chinoise qui vaut vraiment la peine.
Alors, on quitte après un peu la Chine ancienne avec Daniel Bermond, qui lui revient sur l'arme du boycottage.
Oui, alors Daniel Bermond, qui est historien et qui collabore régulièrement à la revue, publie ces jours-ci une biographie de Pierre de Coubertin aux éditions Perrin. Il se livre dans cet article à une sorte de retour, une petite rétrospective du boycott, comme quoi le boycott n'est pas quelque chose de
nouveau,
de très récent.
Entre autres avec les JO de Berlin.
De Berlin, grand moment, effectivement.
Voilà, dont tout le monde se souvient.
Oui.
Et nous allons quitter la Chine et nous allons nous intéresser à votre journal littéraire, puisque vous ne parlez pas de Chine, mais plutôt de l'Espagne.
Oui, ce sont un peu les hasards de la lecture. Double hasard, mais vous savez, en lecture, avec les livres, en réalité, il n'y a jamais de hasard. Ce sont toujours des réseaux d'affinités qui en appellent d'autres. Et donc, en fait, il y a une logique dans tout ça, très subtile, tellement subtile qu'elle m'échappe, mais je sais qu'elle existe. Et là, en effet, il y a deux livres qui m'ont vraiment, vraiment accompagné ces dernières semaines. D'abord, une biographie absolument magnifique de Claude-Henri Roquet aux éditions Buchet-Chastel, une biographie de Goya. Très beau travail, travail d'une vie, vraiment, on le voit, on le sent à lire ce livre. Et puis, alors faut-il parler de biographie ? Je ne suis pas sûr.
Ça a l'air un peu plus compliqué.
Gros livre de Julia Kristeva sur Thérèse d'Avila, qui s'appelle « Thérèse, mon amour », et qui, en fait, tient tout à la fois de la biographie, de l'essai, du roman, puisqu'elle met en scène un personnage de psy tout à fait moderne qui s'intéresse à Thérèse d'Avila, qui est évidemment un double de Julia Kristeva, mais pas seulement, et qui fait intervenir dans son livre des personnages comme Bossuet ou Voltaire, comme si c'était des personnages de roman. Tout ça, en fait, ayant quand même le mérite de... finalement d'approcher, d'éclairer le destin extraordinaire de cette femme, Thérèse d'Avila, qui a à la fois eu un itinéraire mystique absolument hors du commun et qui en même temps a eu, ce qui n'est pas loin d'être toujours le cas, même très rarement, rarissimement, avec les mystiques, aussi eu un rôle institutionnel, fondatrice, le Carmel. En général, les mystiques sont plutôt des têtes brûlées, des marginaux, Jean de la Croix, qui était son ami d'ailleurs, mais Thérèse, c'est autre chose. Et là, c'est vraiment intéressant d'entrer dans l'intelligence de cette aventure. Et donc, finalement, pour le lecteur que je suis, il y avait là, tout à coup, une sorte de cohérence, si vous voulez, dans la lecture, entre Goya, qui est un témoin, quelqu'un qui a pressenti les ténèbres du monde moderne qui arrivait. Son œuvre en témoigne d'une façon extraordinairement puissante. Et Thérèse, quoique vivant évidemment dans une époque qui n'est plus du tout celle, qui n'est pas évidemment rien à voir avec ce qu'a connu Goya, mais voilà, qui sont dans l'aventure espagnole, deux personnalités qui évidemment débordent de très très loin le cadre national, même s'il y a des spécificités aussi là à retenir. Dans Goya, il y a de très belles pages sur la corrida, d'ailleurs. On retrouve d'autres auteurs que j'ai eu le plaisir de relire récemment comme Monterland.
Voilà, c'est ce que c'est, tout ça vous amène.
Avec un grand bonheur, je veux dire. Vraiment, la relecture de Monterland, je n'avais pas rouvert depuis des années, m'a montré que Monterland n'avait pas pris une ride. Était vraiment, mais d'une vivacité, d'une force et d'une...
Vous citez quelques passages, en effet, au début de votre journal littéraire.
Sensationnel.
Formidable.
Ce petit passage où il se donne, à propos de Gilles de Retz qu'on mène au bûcher, et Montalant dit, voilà, le christianisme à son sommet, c'est Gilles de Retz qu'on mène au bûcher, et les femmes.
Les mères des enfants qu'il a tués dans la foule, priant pour lui, du moins c'est là une pointe du christianisme, dans le sens où il est digne d'être respecté.
Voilà, c'est formidable ça.
C'est formidable, oui, oui. Mais nous allons terminer là-dessus, Michel. Je renvoie nos auditeurs... à la Revue du Démon, au numéro de juillet et août, disponible en kiosque et en librairie. Vous retrouverez de nombreux articles, dont le discours de François Hollande au dernier dîner de la Revue des Deux Mondes. Merci Michel, je vous souhaite ainsi qu'à nos auditeurs un très bon été.
Vous aussi.
Et vous donne rendez-vous à la rentrée pour le prochain numéro de la Revue des Deux Mondes. À très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.